Donc, merci d'abord à l'équipe de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous parler de l'évolution de la part d'action culturelle dans les médiathèques de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg, de la part Europe dans l'action culturelle, sachant que cette part Europe existe depuis l'ouverture de Malraux en 2008. Avant, jamais nous ne nous sommes positionnés plus spécifiquement sur la thématique Europe que sur une autre thématique. À partir de ce moment-là, ça m'a interrogée et je me suis dit que j'allais quand même vous donner quelques éléments de contexte, dans la mesure où il me semble que le fait que Strasbourg soit systématiquement, du fait des institutions européennes et de leur présence, associée à l'Europe, et que dans le quotidien, ça ne serait pas toujours perçu, je me suis dit peut-être qu'il fallait, avant de parler de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que la dimension Europe maintenant est une dimension politique très forte, et je vous parlerai notamment de Traduire l'Europe et de Et cetera, qui est un projet subventionné par le programme Culture, je me suis dit que peut-être qu'il fallait réinterroger l'européanité de Strasbourg à partir des slogans, on peut appeler ça des slogans qu'on entend tout le temps. Donc le premier slogan, c'est Strasbourg au cœur de l'Europe. Strasbourg était le cœur de l'Europe, géographiquement, oui. Elle est à égale distance à vol d'oiseau de la Méditerranée, de la Baltique, du littoral atlantique, 750 km environ, à égale distance aussi de la mer du Nord et de l'Adriatique. Il n'y a donc rien à contester. En revanche, en termes d'accessibilité, Strasbourg est-elle vraiment au cœur de l'Europe? Elle est au centre du réseau autoroutier européen, oui, au croisement des axes autoroutiers Paris-Munich et Hambourg-Milan, on a un accès rapide à la plupart des villes, Bâle de 1h15, Luxembourg 2h, Milan 5h. Je pense que en termes d'infrastructure autoroutière, il n'y a rien à dire. En revanche, les liaisons ferroviaires qui desservent Strasbourg, le TGV Paris-Strasbourg n'a pris ses fonctions qu'en 2007, et le TGV Rhin-Rhône, qui nous est promis pour dans 186 jours exactement, pour le moment se fait toujours attendre et fait que nous avons, nous, beaucoup de mal à faire venir des gens sur Strasbourg pour des interventions dans la mesure où ça prend trop de temps. La plateforme européenne. L'aéroport de Strasbourg-Ansheim fait des progrès. On a des liaisons régulières avec 13 villes françaises, 6 destinations européennes, 4 destinations internationales. Mais je dois dire que la proximité de l'Allemagne est une bénédiction en termes d'aéroport, dans la mesure où c'est bien à partir de Francfort que se font la plupart des déplacements, et qu'en termes de charter, Baden-Baden, 50 km de Strasbourg, Zweibrücken, une centaine, sont les seuls à nous offrir des voyages low cost pour l'Europe et le monde. Pour la petite histoire, je signale quand même que nous sommes à la jonction des Eurovéloroutes 5 qui desservent Londres à Brindisi et la véloroute Rhin, de la source du Rhin à Rotterdam, Strasbourg étant la première ville cyclable de France. Je pense que c'était intéressant de le signaler. Donc, au cœur de l'Europe, oui, sur la géographie, en termes d'accessibilité, c'est en devenir. Je prendrai maintenant d'autres, ce que j'appelle des slogans, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais d'autres phrases qui reviennent constamment lorsqu'on parle de Strasbourg, c'est donc Strasbourg, carrefour de l'Europe. Alors, Strasbourg est-elle un carrefour de l'Europe? Ça, l'histoire, sans aucun doute, nous l'a dit, ça a été une ville d'invasion, les Romains en 58, saccagée par les Allemands en 355, 451 destruction de la ville par Attila, ensuite les Suédois par dans la guerre de 30 ans, qui ont laissé dans les chroniques des récits d'exactions terrifiants, Louis XIV et le beau petit jardin en 1681, et ensuite l'histoire qu'on connaît tous, 1870, bombardement des Prussiens, 1871, l'Alsace-Lorraine rattachée à l'Allemagne, 14, retour à la France, 40, occupation allemande, 45, retour à la France. Donc, carrefour de l'Europe et de passage, oui. Strasbourg est aussi une ville-refuge. Pendant la guerre de 100 ans, il y a eu plus de 10 000 réfugiés qui sont arrivés. Ensuite, les Huguenots chassés de France, une présence de communautés juives qui a toujours été importante, sauf évidemment pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et entre les deux guerres, d'ailleurs, l'augmentation démographique de la population strasbourgeoise avait d'ailleurs été à nouveau très importante du fait de l'arrivée des Juifs d'Europe centrale. Strasbourg est une ville d'échanges commerciaux. Là aussi, les chroniques nous signalent dès l'Europe norvégienne, on exportait du vin, du blé, du bois de chêne vers l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Scandinavie. Et aujourd'hui, le port autonome de Strasbourg est encore le deuxième port fluvial de France après Paris. Strasbourg, au XVe siècle, était une place bancaire d'importance. Aujourd'hui, elle compte encore 10 sièges sociaux de banque dans de nombreux établissements étrangers et internationaux. Strasbourg, ville d'échanges intellectuels, avec quelques époques remarquables, la fin du XVe siècle, où on comptait une dizaine d'ateliers d'imprimerie, notamment la prestigieuse officine des Gröninger, et évidemment Strasbourg, ville au cœur de la réforme et de l'humanisme. En termes d'échanges intellectuels, les allers-retours entre la France et l'Allemagne se sont accompagnés très fréquemment d'arrivées d'intellectuels, et l'université de Strasbourg doit pas mal du reste aussi à la période 1870-14 où l'Allemagne l'avait bien développée. Aujourd'hui encore, Strasbourg, donc un carrefour, oui, 20% des étudiants de Strasbourg sont étrangers. Je vais maintenant, et il y a une part de subjectivité dans ce choix, mais parler d'un certain nombre de dates et de personnages qui sont régulièrement convoqués dans les discours politiques. Par exemple, le serment de Strasbourg, 842. Le serment de Strasbourg, c'est Charles le Chauve et Louis le Germanique, petit-fils de Charlemagne, qui s'étaient ligués contre Lothaire pour se partager l'Empire. Le serment de Strasbourg, c'est le plus ancien texte rédigé en langue romaine, qui est l'ancêtre du français, entre autres, et en langue tudesque, l'ancêtre de l'allemand. Il semble que le rappel fréquent de cet événement s'explique en partie par la volonté d'insister sur le bilinguisme qui devrait être naturel en Alsace. Or, la question du bilinguisme suscite encore de violentes passions aujourd'hui, et les Alsaciens ont été sommés d'abandonner leur langue à plusieurs reprises entre 70 et 45. Dans les années 60, les élèves qui parlaient alsaciens dans la cour d'école devaient quelquefois porter des marques d'infamie, donc cette histoire du bilinguisme, elle ne va pas de soi. Et quand je parle de passion, quelquefois c'est même des guerres violentes dans les... Mais bon, je pense que le rappel, c'est vraiment un acte politique fort de rappeler le serment de Strasbourg et le goût des langues que nous devrions avoir. Deuxième figure tutélaire, Gutenberg et l'invention de l'imprimerie, dont on nous a longtemps dit qu'il était sûr et certain qu'elle avait été créée à Strasbourg. On sait qu'aujourd'hui, maintenant, avec le passage à Mayence... peut-être que les caractères mobiles ont été inventés là-bas, peu importe, Strasbourg est toujours convoqué dans les discours, et toutes les politiques culturelles se placent sous l'égide de Gutenberg. Et il est vrai que les politiques culturelles de Strasbourg ont toujours été importantes, et que les municipalités, de quelle qu'obédience qu'elles soient, ont toujours donné des crédits intéressants. Longtemps, Strasbourg a d'ailleurs utilisé un logo Strasbourg, ville de culture. L'humanisme rhénan, c'est la fréquence omniprésente, et là je ne parle pas seulement des discours politiques, mais je parle de toutes les réunions de cadres, quelles que soient les institutions dans lesquelles on œuvre. L'humanisme rhénan, c'est la référence incontournable. Il est vrai que entre Wimpfelling, entre Geiler de Kaisersberg, qui est un prédicateur qui a amené la réforme à Strasbourg, et Sébastien Brandt, l'auteur de La Nef des Fous, Beatus Redanus, qui était l'ami d'Erasme, au 15e et 16e siècle, Strasbourg a vraiment été un foyer de culture européenne et un foyer de pensée. Ne sont pas convoqués dans les discours, évidemment, les guerres de 70, 14, 18 et 39, 45, qui ne sont convoqués dans les discours que lorsqu'on commémore, évidemment, quelque chose. Bon, tout ça pour dire que, sur le plan politique, de faire de Strasbourg une ville européenne, de nous amener à être... plus européen, je crois que les Strasbourgeois le sont d'emblée, mais c'est pour ça qu'on interroge plus, ce qui est naturel. Donc, mais je crois que c'est une volonté très forte. Simplement, les choses ne sont pas aussi claires, et à titre d'exemple, je voulais simplement citer un réalisateur strasbourgeois qui s'appelle Robin Hunsinger, et qui en 95 avait fait un film qui s'appelait Voyage dans l'entre-deux. Je vous en lis le pitch. Ayant grandi à quelques kilomètres du Rhin, Robin Hunsinger n'est jamais allé en Allemagne. Le Rhin a toujours marqué pour lui une frontière inconsciente, infranchissable. Au cours de ce voyage dans l'entre-deux, il a cherché à comprendre ce refus à travers l'histoire de sa famille et de ses relations avec la frontière qui sépare la France de l'Allemagne. Ce renouveau personnel, avec son carnet de bord subjectif, est une réflexion sur la transmission et la notion de frontière. Je crois qu'il est important de rappeler tout ça parce que... ça expliquerait peut-être aussi pourquoi les médiathèques simplement n'ont pas développé de partenariat européen pendant longtemps. Les institutions européennes, je ne vous les cite pas, on parle du Parlement, on parle de la Cour européenne des droits de l'homme, il se trouve qu'il y en a beaucoup plus, nous avons le médiateur européen, le système d'information Schengen, le Centre européen de la jeunesse, la pharmacopée européenne, l'Observatoire européen de l'audiovisuel, Eurimage, nous avons aussi d'autres organismes européens à Strasbourg, Strasbourg qui ne sont ni de l'UE, ni autour du Conseil de l'Europe. Par exemple, le Centre d'information sur les institutions européennes, dont je vous invite, si jamais vous avez besoin de revoir vos institutions, à aller sur leur site qui est extrêmement bien fait. Et Enterprise Europe Network, l'antenne média, etc., etc. Et bien sûr, l'état-major de l'Eurocorps. Donc, les institutions européennes sur Strasbourg, il est évident que pour la ville, c'est un enjeu économique. Et on comprend qu'avec la bataille du siège qui sans arrêt revient sur le tapis, Strasbourg essaye de défendre sa position parce que on en vit. Strasbourg, bien, c'est la deuxième ville diplomatique de France après Paris, et on partage avec New York et Genève le privilège d'accueillir de nombreuses institutions internationales sans être capitale d'État. Nous avons 44 consulats à Strasbourg et autour de nombreux instituts culturels et associations nationales. Je n'ai pas fait la liste non plus des institutions transfrontalières, mais l'Eurodistrict Strasbourg-Thonon, qui a été créé en 2005 sur une idée de Chirac et de Schröder, il me semble, mais je ne me souviens plus exactement. Oui, c'est ça, de Schröder, et en plein développement aussi. Alors, la vie culturelle strasbourgeoise est-elle européenne? Je vous invite à vous reporter un article qui était paru dans Le Point le 27 mai 2010, parce qu'il est évidemment impossible de faire un état des lieux de la vie culturelle strasbourgeoise aujourd'hui. Alors, Strasbourg, selon Daniel Payot, notre adjoint à la culture, a la vie culturelle qui correspond à celle d'une petite capitale. Et nous avons plus de 9000 manifestations culturelles chaque année. Or, il se trouve que ni les Strasbourgeois, ni les autres n'ont... Souvent, les gens ont de Strasbourg une vision folklorique, et c'est Strasbourg capitale de Noël qui est en général cité lorsqu'on pense à Strasbourg, à la différence d'Angoulême ou du Festival Étonnant Voyageur. Il n'empêche que nous avons quand même de nombreux festivals très importants. Nous avons le TNS, un philharmonique, l'opéra, mais aussi des théâtres comme le Maillon, et pratiquement chacune de ces institutions développe des festivals qui sont européens dans leur conception et par les troupes qu'elles accueillent. Il se trouve simplement que souvent, ce sont des spectacles assez avant-garde. Il y a peut-être sur Strasbourg un désir comme ça d'excellence et de créativité, voire de recherche underground, qui font que ce que nous faisons n'est pas forcément popularisé. Ça pour le contexte européen. Le contexte des médiathèques. Alors, en 2003, le Conseil de communauté a décidé de la prise de compétences partielle en matière de lecture publique et de création d'un réseau. C'est l'acte fondateur de la politique de lecture publique communautaire, en fonction d'un double projet, construire une architecture pertinente d'équipement et établir un bon fonctionnement du réseau. Donc, en fait, jusqu'en 2006, date de l'ouverture de la première médiathèque communautaire, à savoir la médiathèque d'Ilkirch-Grafenstaden, Strasbourg souffrait d'un vrai déficit en lecture publique. Donc cet acte, pris par le Conseil de communauté, ce qui avait été décidé, c'est de construire 3 niveaux d'équipement. La médiathèque André Malraux, qui était le premier niveau, implantée au cœur des 3 villes les plus importantes de la CUS, 3 médiathèques communautaires, puis un niveau d'équipement de bibliothèque de proximité. Pour animer ce réseau, une carte à tarif unique permettant d'accéder sans distinction à l'ensemble des collections de tous les établissements de la CUS et un portail. Je passe très très vite pour avoir le temps de m'arrêter sur les actions purement européennes, mais on est dans une pleine crise de croissance. En 2009, nous avions 9 bibliothèques municipales, 6 500 m² d'espace public. En 2006, donc ouverture d'Ilkirch, comme je l'ai déjà dit. En 2007, démarrage de la carte passerelle avec 15 bibliothèques de communes qui ont été affiliées. En 2008, ouverture de la médiathèque Malraux en septembre. Et en 2009, février, ouverture de la médiathèque Relais-Ouest à Lingolsheim. Soit, nous sommes passés en 3 ans de 6 000 m² d'espace public à 19 636 m² d'espace public. Aujourd'hui, en 2010, on a 60 000 abonnés réguliers, plus 20% de non-inscrits, 730 000 documents en accès direct, 2,5 millions de prêts, jusqu'à 10 000 visiteurs par samedi sur le réseau, 935 cartes de collectivité, 664 manifestations culturelles annuelles, etc., etc. Donc dans ce contexte, il fallait aussi organiser l'action culturelle. Jusqu'en 2007, il n'y avait ni responsable de l'action culturelle, ni responsable de la communication. Chaque bibliothèque développait ou ne développait pas d'action culturelle. Et le choix des projets émanait du désir des bibliothécaires et des opportunités, rarement d'une demande politique. Avec la perspective de l'ouverture des médiathèques communautaires, les choses ont changé. Donc en 2007, deux postes ont été créés. Le mien, responsable de l'action culturelle, et un poste de responsable de la communication. Et en 2008, nous avons obtenu deux postes supplémentaires, un rédacteur avec mission d'assistante à la programmation et un poste B de la filière technique, un régisseur. En 2011, un deuxième poste administratif va rejoindre l'équipe et un régisseur supplémentaire est prévu aussi si nous gagnons la bataille de l'embauche. Voilà. Pourquoi ça? Alors, je disais qu'il y avait peu d'actions culturelles jusqu'en 2007. Aujourd'hui, 664 actions annuelles. Alors, pourquoi cette inflation? Parce que Malraux, c'est the place to be. L'esthétique du bâtiment, sa situation dans un quartier en pleine rénovation, les 8000 mètres carrés en font une vitrine convoitée. La demande politique est très forte. Malraux a été voulu par la municipalité UMP et inauguré par la municipalité socialiste. Après quelques polémiques sur les coûts d'investissement et de fonctionnement de la médiathèque Malraux, la nouvelle municipalité a une réelle volonté de marquer son soutien à la lecture publique. La demande politique va au-delà de la demande des élus en charge de la culture. Les médiathèques sont souvent associées aux projets d'autres directions pour soutenir les politiques urbaines en créant des actions culturelles de sensibilisation ou quelquefois comme des vitrines des politiques en marche. Les demandes viennent aussi des acteurs culturels et associatifs, outre les partenaires culturels des festivals que j'évoquais rapidement tout à l'heure, Musica, Jazz d'Or, Strasbourg Méditerranée, des associations de toute obédience ou des institutions comme les hôpitaux ou les consulats nous sollicitent pour que nous soyons partenariats de leurs projets ou de leurs journées nationales. Et il y a évidemment une demande très forte des bibliothécaires du réseau. Les bibliothécaires du réseau municipal étaient angoissés à l'idée de perdre leur lectorat du fait de l'ouverture des trois grosses médiathèques communautaires. Et les bibliothèques des médiathèques communautaires ont voulu jouer la carte de l'action culturelle pour attirer un nouveau public, le séduire, le fidéliser. Donc, il a fallu, avant de penser à faire un projet scientifique autour de l'action culturelle, à mettre en place une organisation qui puisse permettre de gérer ces demandes massives. J'ambitionnais il y a 3 ou 4 ans de réussir avec les bibliothécaires à élaborer une charte de l'action culturelle dont le premier article devait être un texte bref qui définirait clairement le champ de l'action culturelle des médiathèques de Strasbourg. Le champ de l'action culturelle dans les médiathèques étant difficile à définir, et pas seulement à Strasbourg mais bien de manière générale. Aujourd'hui, je peux dire que si nous avons réussi à mettre en place, j'ai oublié mes documents, on a réussi à s'inscrire j'accélère. Donc je vais passer sur le contexte pour arriver directement au pôle d'excellence littérature européenne. Malraux, la demande a été, nous avons 3 pôles d'excellence, l'illustration. Et là, avec de Gustave Doré à Tony Ungerer, en passant par l'école des Arts Déco et la Pointe, c'est une spécificité strasbourgeoise. Le fonds patrimonial, et là on en revient à l'héritage de Gutenberg dont je parlais tout à l'heure, et le pôle littérature européenne. Et là, ça veut vraiment être une demande politique. Il fallait impliquer la ville dans la marche de l'Union européenne. Et pour ce faire, il fallait donner une place privilégiée aux littératures et à la culture européenne. Donc le pôle d'excellence de littérature, son objectif de départ, ça a été la découverte de l'Europe des 27 par les littératures. Pourquoi l'Europe des 27? On était dans le moment où un certain nombre de pays d'accroissement de l'Union européenne et c'est le contexte, le référendum européen aussi. Donc je pense que les 27, plutôt que tous les pays européens, ça a été vraiment ce choix. Alors, l'émission, c'était de gérer la collection des 26 pays de l'Union européenne pour présenter l'offre la plus riche possible et favoriser les emprunts en faisant connaître et en valorisant le fonds, et d'œuvrer pour la connaissance et la diffusion des littératures européennes par l'action culturelle en particulier. Alors, pour les collections, c'est un ensemble de romans de littérature générale, mais il se prolonge dans le reste de la fiction. La France n'est pas incluse dans le pôle des littératures européennes. La politique d'acquisition, c'est l'exhaustivité pour la littérature générale et une faible sélection pour les romans policiers et de l'imaginaire. Une forte sélection pour la poésie et le théâtre, une forte sélection pour les documentaires. Nous avons 24 titres de revues, dont 19 en langue étrangère, qui complètent l'information et la connaissance des littératures européennes. La difficulté pour créer un fonds de ce type, c'est d'abord, nous sommes évidemment tributaires de ce qui a passé la barrière de la langue. On parlait de traduction ce matin, là j'ai les chiffres de livre 2 de 2009. Sur les 490 000 livres édités dans l'Union européenne en 2007, il y a environ un quart de littérature, soit 120 000 livres. Or, seulement 2400 romans étrangers ont été traduits en 2009, dont la moitié d'auteurs européens approximativement. On sait que dans ces traductions, c'est l'anglais, l'espagnol, l'allemand et les langues scandinaves qui représentent 90% des romans traduits. Donc, nous sommes en demande aussi d'une attente, d'une politique volontariste de traduction et de circulation des œuvres. Elle a été annoncée par l'Union européenne, mais les effets tardent à se faire sentir. Pour sensibiliser notre public, donc public de médiathèque de lecture publique, à la littérature européenne, on a choisi de rendre le pôle visible par un classement par pays. Ça s'est concrétisé dans la présentation des collections par une signalétique, des petits drapeaux européens avec chaque fois les trois premières lettres du nom du pays. Donc, si c'est... J'ai vraiment plus que 5 minutes, c'est ça ? Oui, donc il faut vraiment que je me dépêche. Donc, entre 5 et 10 minutes, d'accord. Donc, si à l'ouverture de ce fonds, ce classement a complètement perturbé nos lecteurs parce que ceux qui avaient l'habitude de fréquenter nos bibliothèques étaient habitués à un classement différent, aujourd'hui, il est complètement plébiscité et on nous demande même de faire un classement thématique pour l'ensemble des pays. Pour les emprunts, c'est là où je reviens sur cette histoire d'appétence. Nous sommes européens, on essaye de traduire l'Europe aussi par la culture, mais si on regarde les emprunts, on tombe quelquefois de haut. Qu'est-ce qui est le plus emprunté ? Amélie Nothon, elle est omniprésente dans les premières positions des classements qu'on fait depuis 3 ans. La littérature féminine, pour les femmes et par les femmes, c'est l'autre caractéristique. Donc, Caterina Mazzetti, Barbara Taylor-Bradford, toutes les représentantes du courant chick lit à la suite de Bridget Jones, donc de la littérature très populaire. La littérature de langue anglaise est celle qui connaît le plus grand succès. Elle domine de toute façon l'édition aussi au niveau des traductions. Alors, quand même, quelques particularités notables. Nous nous sommes rendus compte qu'en prenant un classement par pays avec les petites collections ont une capacité d'attraction importante. Plus elles sont petites, plus le taux de rotation de chacun des livres est important. Les collections intermédiaires sont inégalement appréciées. L'engouement du public va d'abord, évidemment, je l'ai déjà dit, vers les littératures de langue anglaise. La littérature allemande présente la même tendance. Elle est assez empruntée. La littérature autrichienne aussi. La littérature finlandaise a été bien boostée par le phénomène des polars nordiques. En revanche, les littératures du Sud sont moins empruntées. Elles ont des taux Italie, Espagne, Portugal ont des taux de rotation bien plus bas que la moyenne. Et on a une mal-aimée, c'est la littérature belge. En dehors d'Amélie Nothon, impossible de faire sortir la littérature belge et... En deuxième mauvaise sortie, la littérature polonaise. La place des classiques, elle n'est jamais démentie, mais elle est tributaire aussi des grands moments de commémoration ou des prix littéraires. Hein. Bon, Stéphane Zweig, on sait qu'en France, il est aimé. Les adaptations au cinéma de Jane Austen la font bien sortir. Le prix féminin en 2003 pour Magda Szabo a eu un impact, de même que le prix Nobel pour Imre Kertész. Voilà, sinon, Dante, les classiques sortent. Alors, on s'est rendu compte donc, que pour faire vivre un fonds de littérature européenne, il fallait vraiment beaucoup de médiation. Donc, on a commencé par des choses très simples, mais toujours très efficaces. Donc, l'effet table thématique. Chaque fois qu'on fait une table thématique, on se rend compte que les livres ont plus de chances de sortir. Encore faudrait-il vérifier après qu'ils soient bien lus. Voilà, je vais, pour avoir le temps de parler des projets vraiment d'animation, je vais en arrêter là avec ce pôle, mais au bout de 3 ans d'existence, la conclusion, c'est que la médiation est vraiment très importante et que quand même notre public préfère les histoires, les choses qui sont très médiatisées et que c'est quand même extrêmement difficile de faire lire ou faire connaître sans une médiation particulière des littératures plus... Chypre, par exemple, enfin, des littératures de plus petits pays. Alors, Malraux ouvert sous le signe de l'Europe, donc on vient de parler du pôle littérature européenne, on a aussi à ce moment-là eu un projet qui s'appelait Animalitaire. C'est un projet qui a été financé par le programme culture de l'Union européenne et qui a été porté par la direction des relations internationales et européennes de Strasbourg, menée par Anne Poitvin, qui d'ailleurs est à la disposition de tous ceux qui aimeraient connaître des choses un peu plus détaillées sur le programme culture Europe et nos actions suite à cette intervention. Donc, pourquoi Animalitaire ? C'était une initiative du Club de Strasbourg. Le Club de Strasbourg était à l'époque un réseau informel initié par la ville de Strasbourg pour accompagner l'élargissement de l'Union européenne. Aujourd'hui, il s'attache à faire vivre les valeurs fondamentales de l'Europe dans les politiques publiques locales et le Club de Strasbourg est maintenant rattaché au Conseil de l'Europe. Donc, Animalitaire, on avait déposé un dossier en février 2007 auprès de la Commission européenne. On a reçu une réponse positive en juin. En novembre, on a lancé le projet. C'est un projet de coopération culturelle cofinancé par la Commission européenne. C'est le programme Culture, donc jusqu'à hauteur de 200 000 euros. Ça a duré 2 ans. Nous avions 9 000 partenaires dans 8 pays différents. L'objectif était de mettre en lumière la richesse de l'art et de l'illustration en Europe en prenant pour catalyseur une thématique très populaire, les animaux qui parlent. Animalitaire, on parlait des problèmes de langue, c'est ou le latin ou l'anglais. Animalitaire, à la manière des animaux. Le projet actuel, c'est Et cetera, donc toujours le latin, drawing pictures, driving words. On s'est longtemps posé les questions faut-il mettre de l'anglais ? En même temps, c'était la langue qui était parlée par tous les partenaires. Donc à Strasbourg était chef de file. Avec comme service participant la direction de la culture, le musée Tony Ungerer, l'école supérieure des arts déco, le service des bibliothèques et évidemment les relations européennes et internationales. Et en Europe, nous avions Varsovie, Debrecen, Brno, Arad, Barcelone, Košice, Prague et Rousse. Une exposition patrimoniale et contemporaine itinérante a été montée. Cette exposition donc rassemblait des œuvres manuscrits incunables. En tous les cas, dans chaque pays d'origine, on présentait nos collections et des créations récentes d'illustrations qui, là, étaient rassemblées dans toutes les villes qui ont accueilli l'exposition. 4 résidences d'artistes, dont une polonaise à Strasbourg et un strasbourgeois à Barcelone. 4 visites d'études de bibliothécaires sur les bonnes pratiques pour favoriser la lecture dans les secteurs jeunesse des bibliothèques. Une revue d'illustrations a aussi été éditée à cette occasion-là. Strasbourg en avait la prise. Elle était coordonnée par Guillaume Dégé, qui est enseignant à l'ESSAD et illustrateur. Le numéro 0 est paru. Dans Et cetera, le numéro 1 va être porté, je ne me souviens plus par quel partenaire, mais il me semble que c'est Varsovie. Donc, chaque ville finalement développait des actions autour de cette exposition. Il y a eu par exemple un colloque à Varsovie en 2009 sur le sujet de l'illustration en Europe, et puis des ateliers. Alors pour le bilan, ça a été une très belle coopération européenne, un bel exemple de réussite en matière de projets cofinancés par des fonds européens, et à Strasbourg, on a eu une coopération efficace entre les différents services de la ville. Strasbourg a par là tenté d'affirmer encore son statut de ville européenne. Le choix de l'illustration, c'est un domaine précis et légitime en regard de la dynamique locale, mais qui a eu énormément de succès aussi dans les autres pays européens. La difficulté, ça a quand même été un partage déséquilibré entre les différents partenaires. Strasbourg a quand même une grosse prépondérance financière et on a quand même eu des barrières de langue, de devises, une difficulté à organiser, des difficultés administratives et juridiques pour faire circuler les œuvres, organiser les transports. Et évidemment des problèmes de comptabilité des collectivités territoriales qui sont clairement pas assez souples pour des projets qui mettent en relation tant d'acteurs. Enfin, bon an, mal an, nous avons réussi à mener ce projet à tel point que nous recommençons avec Et cetera. Alors, je prends encore juste 3 minutes pour parler de Traduire l'Europe parce que c'est une... parce que ça, il me semble que c'est vraiment très intéressant. Donc, traduire l'Europe, le sous-titre de cette manifestation, c'est « Strasbourg invite les capitales européennes ». Nous avons une association, l'Association Capitale Européenne des Littératures, qui émane de l'université, qui, depuis 2005, organisait les rencontres européennes de littérature à Strasbourg. Les rencontres européennes de littérature à Strasbourg... se définissent comme ça, pour surmonter les conflits du passé et faire face à l'émergence de nouvelles superpuissances, l'Europe doit construire son unité. Ce travail est en cours au niveau des institutions politiques et des relations économiques. Mais l'Europe des peuples reste loin en arrière. Les peuples d'Europe ne se connaissent pas, et moins encore ceux qui ont été séparés durant tant d'années par le rideau de fer. Cette mauvaise connaissance mutuelle est essentiellement liée à une ignorance presque totale de la culture de l'autre. Donc, pour faire avancer cette culture, l'association Capitale Européenne a décidé d'organiser des rencontres littéraires et de décerner des prix. Donc il y a chaque année, au moment des rencontres européennes de littérature, la remise du prix européen de littérature qui distingue pour l'ensemble de son œuvre un écrivain européen de stature internationale mais finalement peu connu, une bourse de traduction du prix européen de littérature. Les auteurs par exemple sélectionnés ne sont jamais traduits en français et c'est au moment où on choisit de décerner le prix à tel ou tel écrivain qu'on traduit un de ses livres. Deuxième prix, c'est le prix de littérature francophone Jean Harp, qui lui se donne pour vocation d'attirer l'attention sur des écrivains qui ont fait le choix de mener leur travail à l'écart de la pression commerciale et médiatique. Et le troisième est le prix du patrimoine Nathan Katz, qui lui distingue une œuvre du patrimoine littéraire alsacien du Moyen-Âge à nos jours, écrite en dialecte ou en allemand, et qui n'est encore peu ou pas traduite. Donc dans le travail de l'Association Capitale Européenne des Littératures, on voit qu'autour de trois prix, il y a quand même deux bourses de traduction, d'où la référence à la traduction de la langue de l'Europe. Il est clair que tant qu'on n'aura pas une politique de traduction plus développée, il sera extrêmement difficile pour la plupart des gens et une grande majorité de nos lecteurs d'accéder aux œuvres européennes. Alors traduire l'Europe, c'était bien, mais c'était très confidentiel. Donc la demande politique a été, avec l'ouverture de Malraux aussi, de dire, voilà, nous soutenons la selle, mais il faut que dans les médiathèques, quelque chose de l'Europe se dise au moment des rencontres européennes de littérature, d'où l'appellation « Traduire l'Europe ». Alors « Traduire l'Europe », et je conclurai là, tant pis pour etc., c'est un bis d'animalitaire, et ça laissera peut-être un petit peu de temps pour les questions. Donc « Traduire l'Europe », aujourd'hui, c'est une manifestation prometteuse mais qui se cherche. Une constante, les relations entre la salle et les médiathèques se passent très bien, d'autant plus qu'elles sont facilitées par la présence de Jacques Dormat, qui est chargé de mission poésie pour la ville de Strasbourg, mais qui est aussi secrétaire général de la SEL. Chaque année, autour de Traduire l'Europe, à minima, le pôle de littérature européenne relaie les rencontres, met en avant les ouvrages des lauréats et établit une bibliographie autour du pays du lauréat ou de l'aire linguistique concernée. Ce qui permet, dans un moment très médiatisé, de faire une table thématique et une bibliographie qui aura plus d'écho que celle qu'on fait d'habitude. Ensuite, dans les médiathèques, on a fait des essais. Il était difficile pour nous de faire venir des auteurs étrangers. Ça aussi, c'est un frein qui convient de mentionner. Faire venir des auteurs étrangers, ça double les frais de transport, ça double les frais d'hébergement, ça implique de faire venir des traducteurs. La dernière que nous avions pour Herta Müller, c'était quand même 800 euros la journée. Donc, je veux dire qu'avec les coûts de... Les coûts, c'est très difficile. En plus, les auteurs médiatisés ne viennent pas forcément sur Strasbourg. Nous, le partenariat le plus efficace que nous ayons trouvé pour des auteurs en langue étrangère, c'est vraiment Gaïa, qui est encore un vrai petit éditeur motivé et qui a envie de soutenir les bibliothèques et qui est un vrai partenaire. Donc, on a fait des rencontres d'auteurs, mais on a aussi essayé de traduire l'Europe d'une autre manière, de façon un peu plus sociologique. Et on a, par exemple, laissé une carte blanche à Pascal Bastien, qui est journaliste et reporter pour Libération, Le Monde... et d'autres, et qui sillonne l'Europe depuis des années et qui nous avait fait une exposition magnifique, sans parole, mais qui permettait de voir l'Européen Girl and Boy Next Door, quoi. Et une expo de photographie, oui, quand même d'art et de journaliste, qui a beaucoup libéré la parole des publics qui l'ont fréquenté sur, ah ben tiens, il n'y a pas de clichés, les Italiens, ils n'ont pas tous une toison... fournir. Enfin voilà, pour sortir des clichés, c'était très drôle. On a eu des visites de groupe avec des réactions très spontanées qui nous ont encouragés à continuer. Et pour la prochaine édition de Traduire l'Europe, on aura une exposition faite par un autre photographe, Uwe Homer, et ses familles d'ados en Europe. Voilà, donc je vais m'interrompre, je vous prie de m'excuser, mais je crois qu'il y avait peut-être trop de choses à dire. J'espère n'avoir...